France Musique. Les grands entretiens, Laurent Valero.
Gustavo Beitelmann, musicien, pianiste, compositeur, pédagogue.
Bonjour Gustavo Beitelmann, je suis ravi de faire avec vous ce grand entretien pour France Musique. Et comme première question, puisque cet entretien est un peu un récit d'initiation aussi pour les musiciens que nous recevons, de savoir comment la musique est arrivée dans votre petit village de Venado Tuerto en Argentine.
Bonjour Laurent. Bon, la musique, je l'ai trouvée dès que je suis arrivé dans cette famille qui a été la mienne. Puisque mon père était un excellent violoniste amateur et ma mère jouait avec bonheur le piano. Ils aimaient ardemment la musique. Et c'était pas seulement qu'il a pratiqué, mais aussi que dans le monde qui était le nôtre et le mien, donc enfant, je suis né en 1945, et les sons inondaient notre existence. Il y avait la radio, il y avait les disques, il y avait les balles, et donc la musique était un peu partout. Je ne me suis jamais posé la question du désir, puisque elle était là, donc je ne savais même pas, je n'ai jamais pensé sérieusement à être musicien. Je pense que n'a pas même été un choix de vie. Je pense que la musique a décidé que je sois musicien, qui n'est pas pareil.
Una casa en barraca al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano. Con su luz morte sin un farol en la sombra parpadea, y en un saguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo.
Justement, la radio a occupé une place particulière parce que la radio vous permettait d'entendre tout ce qui venait de l'extérieur.
Exact. Faut penser que Venado Tuerto était autour de 500 kilomètres à l'ouest de Buenos Aires, donc situé en pleine pampa, donc loin des centres urbains importants. Mais la radio reliait tout ce monde. Et il y avait une actualité, la radio argentine était en contact avec l'Europe, donc on entendait Salzbourg depuis Venado Tuerto, mais aussi on entendait le Théâtre Colón depuis chez moi. Et l'époque de mon enfance veut que les trois ou quatre radios plus importantes de Buenos Aires avaient des organismes musicaux stables. Donc on pouvait jouir d'une programmation de musique classique, mais aussi de jazz, de tango et d'autres types de musique. Et donc, je dirais, on n'était pas en solitude, ni en manque. plus, c'était à l'époque mon village, était un lieu riche, parce que la terre était très riche. Donc, elle était à confluence des chemins importants vers le nord et vers le sud et l'ouest de l'Argentine. Donc, c'était une époque où les orchestres tournaient. Donc, moi, quand j'ai 4, 5, 6 ans, j'ai vu la plupart d'orchestres qui font aujourd'hui la mythologie du tango, par exemple. Je les ai vus parce qu'elles jouaient au Club Centenario qui jouxtait, disons, avec les fonds de ma maison. Donc, les samedis et les dimanches, il y avait, en été, il y avait des bals. Et les bals étaient animés par les grands orchestres de l'époque. Je sais pas, moi, j'ai souvenir de, je sais pas, moi, Franchini Pontier, de Pugliese, de Horacio Salgan, de Troilo, de Rotund, peu importe. Je veux dire, tout ce qui comptait dans la vie de la musique populaire argentine passait par ces villages et jouait dans ces villages, au moins une fois à l'année. Donc, mon intérêt était... Donc, je sautais les petits murs qui séparaient le club central argentino de la maison et j'allais marauder, là, autour des musiciens. Et je les entendais jouer. À minuit, ma mère commençait à crier, « Gustavo, Gustavo, au lit, c'est trop tard, blablabla. » Bon, moi, je rentrais, j'allais coucher, et l'orchestre continuait à jouer à 15 mètres de ma chambre, donc jusqu'à que je m'endormais. Donc, je ne sais pas si j'ai décidé quelque chose. J'ai suivi ce que la vie m'a donné, qui était tout ça. Donc, je suis né et j'ai vécu à l'intérieur de ce type de choses. Même à 500 kilomètres à l'ouest de Buenos Aires, dans un profond de pampa.
Tout à l'heure que votre père était un très bon violoniste amateur, votre ouais. mère également jouait du piano.
Ouais.
C'est quoi les premières musiques que vous avez écoutées à la maison quand vous étiez enfant? C'était eux?
C'était eux et c'était la radio, bien sûr. Mais je veux dire, eux qui jouaient avec bonheur et un peu de musique classique, pas mal de tango et pas mal de jazz. Jusqu'à que moi j'ai eu, je sais pas moi, 5-6 ans. Et alors, j'ai remplacé ma mère, puisqu'ils avaient découvert que j'avais de bonnes oreilles. Et donc, j'ai remplacé ma mère à accompagner mon père. Donc, j'ai appris à jouer, je sais pas moi, peu importe, des morceaux de Duke Ellington ou El Choclo ou La Comparsita. Et donc, on mélangeait tout, puisque la question était si la musique plaisait, était bonne, et si la musique ne plaisait pas, était à jeter. Donc, j'ai aussi vécu dans un univers assez ouvert où Stravinsky et Troilo allaient de la main. Donc, rien d'exceptionnel. Et ça a été mon quotidien.
Et on va voir que ça expliquera beaucoup de votre parcours de musicien professionnel après. Comment se passent les premiers instants à jouer du piano? À partir de quel âge vous commencez le piano?
Je pense que je commence à pianoter vers les 4-5 ans et je continue à pianoter jusqu'à bien plus tard. Mais j'ai eu un goût pour la fabrication des notes et des accords et de la reproduction de Sophisticated Lady, par exemple, que se confond dans ma mémoire avec les choclos, la comparsita, puisque je les ai appris plus ou moins à la même, époque. Donc pour moi, et tout ça ne fait qu'un. Et donc j'ai passé de bons moments à pianoter et à essayer de trouver ou à répéter ou m'interposer entre les uns les autres en faisant mes propres solos, etc., etc., etc. Jusqu'au jour où j'ai, par l'entremise d'un cousin qui était plus âgé que moi, qui vivait à la ville de La Plata, qui, connaissant mes goûts pour la musique, mon penchant pour la musique.
Vos aptitudes.
Et donc, le type, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait le cadeau d'un disque de Monk. Et là, Laurent, je vous dis la vérité, je pense avoir découvert l'Amérique.
Ça veut dire que ça a été un choc esthétique très important.
Si, si, ça c'était à 11, 12 ans. Et ça a été une des choses, comment dire, avec Piazzolla et Salgan, et des choses marquantes de ma vie au sortir de l'enfance.
Qu'est-ce qu'a produit sur vous la découverte de l'univers musical de Thelonious Monk?
C'est comme si une porte que je n'avais jamais ouverte, non, m'a permis de passer et regarder un terrain absolument vierge pour mes oreilles. Je ne connaissais pas ni cette manière de jouer, ni cette son, ni cette manière de penser la musique, ni l'attitude par rapport au tempo. Je sais pas, moi, pour moi, Monk a été mon passeport qui m'a permis d'accéder à la musique du XXe siècle. Pas seulement à un autre style de jazz, mais par le biais de Monk, j'ai pu approcher Schoenberg, par exemple. Stupide, mais c'est vrai. Non, parce qu'on devrait dire le contraire. Que vous avez commencé par un endroit et après, vous suivez le cours du temps, qui c'est de gauche à droite. Moi, j'ai fait de droite à gauche. Donc, j'ai commencé, disons, au milieu des années 50 par Thelonious Monk et après, j'ai viré vers la découverte d'Alban Berg et de Schoenberg et de la musique, notamment de la deuxième école de Vienne.
Et vous vous souvenez des compositions, plus particulièrement de Monk, dans ce disque, celles qui vous avaient particulièrement frappé?
Ben oui, je me souviens de Crépuscule de Wisnelli. Même si les pianos sont très bons et très accordés, ils sont toujours désaccordés. Je trouve ça génial, tout vivre, mais d'une manière différente, comme il faut. Parce que je sais que ce type utiliser le même piano que j'utilise. Comment il fait pour trouver ces sons, non? Beaucoup d'autres choses, vous pouvez les pratiquer. Là, il y a un mystère. Et le type, disons, là où tout le monde montre ses muscles en jouant à quadruple vitesse, lui joue 6 notes. Mais quelles 6 notes joue? Je ne sais pas, moi. Moi, je trouve, encore aujourd'hui, j'ai des frissons. Quand je reviens sur le disque de Monk, non, je ne remémore pas l'enfant que j'étais à découvrir ça. Je suis toujours surpris par la magie elle-même de ce que cet homme produit à son insu. Lui, il joue avec les moyens qu'il a, donc des moyens relatifs. Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Gustavo Bettelmann.
Comment a commencé votre apprentissage un peu plus académique du piano? Vous êtes allé après dans une école?
Mon apprentissage a commencé quand j'avais entre 12 et 13 ans. Parce que c'était une famille à la lisière de la pauvreté. Donc, à cet âge-là, j'ai fini ce qu'on appelait en Argentine le premier cycle d'études. Et pour passer à l'autre, que serait plus ou moins comme ici, et le collège. Non, il n'y avait pas l'argent pour payer à ces garçons les études. Donc la famille m'a dit, tu dois travailler. Donc tu as deux possibilités. Soit tu aides ton père, parce que mon père était le comptable d'une agence Chrysler à Venado Tuerto, soit, puisque ça te plaît la musique, tu passes une épreuve et tu vois si l'orchestre, là où mon père jouait, et si eux, te trouvent intéressant, ils te prennent et tu gagnes ton argent. Bon, à 12 ans, l'idée de voyager un peu, de se coucher à 5 heures du matin...
Oui, ça donne plutôt envie.
Enfin, je n'ai pas pensé trois fois. J'ai dit, je me présente à l'orchestre.
Et alors, ils vous prennent?
Donc, ils me prennent, mais à une condition. Ils me disent, t'as du talent, mais ta main gauche est faible. Pour le moment, tu ne sais pas comment mener une orchestre avec ta main gauche. C'était une...
Là, on parle de tango, hein?
Ah oui.
Et oui, la main gauche est très importante.
Oui, c'est ça. Donc, et en plus, l'orchestre jouait style Troilo. Donc, Orlando Goñi, qui était la figure du commandeur du piano.
Piano, oui, tout à fait.
Donc, le type me dit, non, mon petit, à la queue. Par contre, on te prend pour jouer, parce que les orchestres jouaient double genre musical. Ils faisaient tango et ce qu'on appelait jazz, qui était en fait...
Tout le reste.
C'est ça.
La chanson.
Si, la chanson, et notamment la musique des Caraïbes. Bon. Donc, j'ai commencé par jouer la partie jazz de l'orchestre. Mais à la fin de chaque bal, où l'orchestre ne mettait pas en jeu leur qualité ni leur prestige, il me laissait monter et essayer deux, trois tangos pour que j'apprenne à jouer avec l'orchestre. Donc, mon premier conservatoire était là. J'ai appris à jouer tango à 13 ans parce que l'orchestre a bien voulu de moi. Donc les deux, trois, après ils ont converti en 45 tangos que je savais jouer. Et j'avais développé un métier de pianiste d'orchestre de tango. Mais sans le vouloir, parce qu'il faut dire que moi ce que je voulais était jouer le tango, pas parce que j'avais un penchant particulier pour le tango, mais parce qu'il était plus prestigieux. Parce que il y avait une partition, parce que j'ai joué avec les bandoneons et les violons, et parce qu'il était moins pris pour un rigolo. Là, c'était plutôt sérieux pouvoir jouer ce type de choses. Donc, je pensais sûrement que j'impressionnais mieux les filles
en
étant pianiste de tango qu'un pianiste de jazz.
Qu'est-ce que vous diriez, Gustavo Beitelmann, de la caractéristique d'un pianiste de tango?
J'ai découvert, en faisant le métier, des spécificités. Par exemple, bon, d'abord, c'est l'instrument de plus gros volume.
Oui.
Donc, les bandoneons et les violons ne font pas la concurrence du piano. Si le piano est un piano à queue et ouvert, donc je veux dire, les orchestres sont façonnés par les sons du piano. Deux, on n'a pas dans le tango la percussion.
Non.
Donc, le piano est un peu un factotum qui contrôle pas seulement les sons,
mais aussi le rythme.
Donc, d'une certaine manière, vous êtes, indépendamment des solos que puisse faire les pianistes au cours de la nuit, vous êtes une sorte de Rasputin. Non, vous tirez le fil, non, de l'orchestre là où vous jouez. Parce que les ressorts les plus intimes de cette musique sont tenus par le piano. Et après, il y a une chose que j'ai découvert devenant plus vieux, c'est que le piano tango vous permet, plus que d'autres musiques populaires, de rester proche de votre éducation de pianiste. L'articulation, les pédales, la résonance. C'est-à-dire, vous êtes dans un terrain, vous sortez de là et vous vous mettez à jouer Schumann. Alors, racontez-moi la différence. Du point de vue pianistique, vous êtes dans un même terrain en utilisant les mêmes éléments, non, ou en demandant au piano les mêmes réponses. La nature de la musique change, mais pas quelle est votre relation avec l'instrument.
Corralera, un tango d'Anselmo Aieta, prend fin le premier épisode des grands entretiens du pianiste Gustavo Beitelmann. Prise de son Pierre Monteil, mixage Tahar Bouklifa, attaché de production Marie Ferdinand, réalisation Lionel Quentin. Les grands entretiens sont disponibles à la réécoute sur francemusique.fr. Rendez-vous demain pour le deuxième épisode.
À réécouter sur francemusique.fr.